Les orages maléfiques, chapitre 42. Le fils aîné traînait son spleen de verre en verre. La fuite de Rindra lui laissait un goût bizarre dans la bouche. Il s'interrogeait continuellement à son sujet, puis replongeait dans l'absorption de breuvages alcooliques aux effets dévastateurs. Chaque jour ressemblait au précédent, en pire. Il se détruisait consciemment, considérant qu'il n'avait qu'une seule issue. Il s'employait à accélérer le processus. Dans ses moments de lucidité, ses états d'âme le torturaient profondément. Il s'en voulait de s'être comporté de la sorte. Sa fierté et sa mythomanie l'avaient amené jusqu'au bord du précipice, et il se trouvait face au vide, sans aucun garde-fou. Le souvenir de sa mère, de son frère avec sa femme, et ses deux fillettes le tourmentaient. Il regrettait son absence lors du dernier adieu. Il avait perdu une occasion de réconciliation avec son père durement éprouvé. Maintenant, le père était parti. Il ne savait où et avec qui. Il ne s'imaginait pas ce que signifiait ce départ. Il constatait simplement. La dégradation de ses performances au travail déclencha une réaction des dirigeants du groupe. Habitués à des idées de génie de la part de leurs collaborateurs, ils n'admettaient pas cette chute de tonus liée, selon eux, à un cruel manque d'initiative. Ils le sommèrent de redresser la barre immédiatement, sous peine de licenciement. La première sanction fut le montant de la prime annuelle d'investissement personnel, qui représentait à peine le dixième de celle de l'année précédente. Le message était clair. En rentrant au milieu de la nuit d'une tournée dans les bars de la ville, il trouva une convocation de la police. Il était attendu au commissariat le lendemain à 10 heures. Il s'interrogea sur le but de cette missive, passant en revue les infractions pouvant lui être reprochées. Il absorba 2 cachets, pour tenter de soulager sa tête douloureuse, passa sous la douche et réussit à dormir par intermittence. Au matin, il prévint son bureau de son absence. Il était préférable d'envisager un entretien long et précisa qu'il serait présent en début d'après-midi. À son arrivée dans les locaux policiers, il fut dirigé vers une pièce où l'attendait un inspecteur. L'accueil chaleureux le surprit. Il avait envisagé une réception plus dure, avec une réprimande, voire une amende et peut-être la confiscation de son permis de conduire. Il ne comprenait pas où l'entraînait l'homme assis en face de lui. Ce dernier l'interrogea sur sa situation familiale et surtout celle de ses parents. Il eut du mal à révéler qu'il avait coupé les ponts avec son géniteur et n'avait aucune idée de sa résidence actuelle. Son interlocuteur s'étant assuré qu'il parlait avec le seul membre connu de la famille, il aborda l'objet de l'entretien. Il différa le moment de la révélation, le préparant à la mauvaise nouvelle qu'il allait lui annoncer. Il lui demanda s'il connaissait la Thaïlande et lui parla enfin du tsunami qui avait ravagé de nombreuses côtes d'Asie du Sud-Est. Le fils aîné s'impatienta et lui posa une question directe. Il voulait savoir si les restes de son père avaient été retrouvés parmi les victimes de ce désastre. Le policier lui répondit par la négative et rajouta que les autorités thaïlandaises étaient en possession d'un portefeuille et d'un passeport lui ayant appartenu. Il venait de réaliser qu'il était le seul survivant de la famille. Cela lui fit peur. Il redouta encore davantage son tête-à-tête avec sa conscience. Il resta prostré plusieurs secondes. L'inspecteur, respectant son silence, attendit qu'il se manifeste. Enfin, il se redressa et voulut savoir si des recherches étaient en cours pour retrouver son père. Son interlocuteur lui répondit qu'il était nécessaire de procéder à une analyse d'ADN, la méthode la plus fiable face au nombre important de personnes à identifier. Muni d'un document délivré par les autorités compétentes, il se présenta à un laboratoire pour faire effectuer un prélèvement sanguin. Les résultats furent transmis au ministère des Affaires étrangères, qui les communiqua à son homologue en Thaïlande. L'attente dura plus de 6 mois. Le corps n'était toujours pas identifié. Il appela plusieurs fois la cellule spécialisée. La réponse ne variait pas. Nous suivons ce dossier et nous vous appellerons dès qu'une information nous parviendra. Le service était rodé à ce genre de demande. Les fonctionnaires utilisaient le vocabulaire approprié, ils n'étaient pas dupes. D'autres mois s'écoulèrent, identiques aux précédents, sauf qu'il n'appela plus. Il n'attendait rien de leur part. Comme tout un chacun, il avait suivi les péripéties des populations confrontées au malheur. Il avait vu les cadavres allongés dans des morgues de fortune. Regardez les fosses communes où s'entassaient les dépouilles non identifiées ou celles des autochtones. Celles des touristes étaient photographiées, étiquetées et une analyse d'ADN effectuée avant de rejoindre leur tombe à des milliers de kilomètres de chez eux. La découverte du passeport provoqua un déclic chez le fils aîné. Un regain d'énergie le parcourut. En quelques semaines, il arrêta non sans difficulté sa consommation d'alcool. Il réfléchit beaucoup à tout ce qui s'était passé, à tous ces orages maléfiques qui avaient décimé sa famille. Aujourd'hui, il trouvait injuste la perte de toutes ses vies. Il remontait la pente jour après jour et pensait de plus en plus à Rindra. Il voulait la rencontrer, lui parler. Il éprouvait le besoin de la regarder au fond des yeux, de la comprendre. Dans les familles occidentales, de nombreux disparus du tsunami étaient titulaires de contrats d'assurance en cas de décès. Or, l'absence de corps empêchait le versement des capitaux souscrits. Le code des assurances ne transigeait pas avec cette règle. La position des compagnies se justifiait par les possibilités d'escroquerie que pourrait constituer l'abolition de cette disposition. Aussi, des veuves et des orphelins se trouvèrent sans ressources. Convenait de venir en aide à ces gens touchés par l'adversité. Le gouvernement français adopta une mesure exceptionnelle en faveur des ayants droit des victimes non identifiées. Une enquête simplifiée fut diligentée pour prouver que chaque disparu était arrivé sur les lieux du cataclysme et qu'on ne disposait pas de la preuve de sa présence ou de son départ. Les assureurs durent se soumettre à la volonté politique de traiter ce dossier avec compréhension. La police lui remit les documents ayant appartenu à son père. Le passeport recelait de tampons de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Les 4 morceaux d'une carte postale représentant un groupe d'enfants l'intriguèrent. Il ne put déchiffrer ce qui était écrit au dos. Le séjour dans l'eau de mer avait fini par dissoudre l'encre, mais quelques tâches subsistaient. Il ne saurait jamais ce que sa mère avait écrit. Quand ton pas et mon pas, en costume de nous, s'habillèrent de nos cœurs et nos yeux, rêvant l'un de l'autre du mieux, d'un amour qui se noue, quand ton pas et mon pas. Il ne comprendrait pas davantage ce que contenait cette enveloppe, sans rien de griffonné dessus. Il ne vit pas l'intérieur, légèrement gris. Son père avait tenu sa promesse à son épouse. Il avait disposé les cendres de ses enfants, petits-enfants et de sa compagne adorée dans chaque emballage et avait confié ses poussières aux os des sites les plus beaux. Les autres pièces trouvées dans le portefeuille étaient banales, des cartes de visite de restaurants et d'artisans et une carte de crédit.